L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et d'autres hommes de Dieu. Et on va lire à partir du verset 6, chapitre 15, au verset 6, et on va lire jusqu'au verset 35. On va lire une bonne portion de la parole de Dieu ce matin. Alors, acte 15, au verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage. En leur donnant le Saint-Esprit comme à nous, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. » C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabbas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retournés vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, on va prier encore un petit moment. Notre Dieu, nous sommes devant les Saintes Écritures inspirés par ton esprit et ta parole est là pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit propre et accomplie pour toute bonne œuvre. Seigneur, enseigne-nous ce matin, montre-nous quelque chose de plus, qu'on puisse s'ajuster, grandir dans la foi, dans la connaissance du Seigneur Jésus, on te prie, en son nom. Amen. Alors, quand faire ou ne pas faire de concessions? Un sujet pas facile, parce qu'on est toutes des personnes différentes, hein? Puis les points auxquels on attache de l'importance, bien, ça le dit, sont importants pour nous. Et je pense qu'avec de la maturité, c'est important d'être capable de faire des différences entre des choses sur lesquelles il n'y a pas de concession à faire et des choses sur lesquelles il faut faire des concessions pour garder l'unité, l'harmonie, pour éviter la division, du trouble. Moi, quand je suis devenu chrétien, au début, je ne faisais pas de différence entre les enseignements fondamentaux des Écritures puis les opinions. C'est comme s'il n'y avait pas de différence. Tout était égal, égal, égal. Mais avec un petit peu de temps, avec la maturité, avec une connaissance de la parole, oh, là, j'ai commencé à voir qu'il y avait des choses vraiment fondamentales et des choses avec lesquelles on formait notre opinion et puis on respectait les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait une différence, une distinction dans l'importance des choses. Et c'est ce qui est un peu ce qui arrive dans notre passage ici. On a des gens qui tiennent très fortement à des opinions et on va voir qu'il n'y avait pas de concession à faire sur les opinions que certains amenaient. Et il y avait par contre des concessions qu'il fallait faire aussi dans d'autres domaines. Alors, on va essayer de voir ensemble, de démêler tout ça ensemble. C'est un passage qui nous parle d'abord d'un désaccord. Il y a un désaccord au début, quand il se met à y avoir des conversions partout dans les nations, dans les mondes non-juifs. Il commence à y avoir de plus en plus de conversions. Puis dans une ville qui s'appelait Antioche, en Syrie, il y avait beaucoup, beaucoup de nouveaux sauvés. D'entre les nations, pas des Juifs, mais des gens qui entendaient l'Évangile, qui se convertissaient. Et puis, certains Juifs, chrétiens, croyants au Seigneur Jésus, pensaient qu'il fallait leur imposer l'observation de la loi à ces gens-là, à ces nouveaux convertis-là. Il fallait leur imposer non seulement l'observation de la loi, mais il fallait aussi leur imposer le rite, la circoncision, qui est un... Bon, alors, ça crée une discussion, un débat entre les croyants, assez important qu'ils ont décidé de faire une réunion spéciale à Jérusalem et Paul et Barnabas sont venus d'Antioche à Jérusalem pour discuter de la question avec l'apôtre Pierre puis avec les croyants de Jérusalem. Alors, c'est un peu le contexte. Il y avait un désaccord, il y avait un débat, il fallait en discuter puis mettre les choses au clair. Et on va regarder, on ne regardera pas tout en détail, mais on va regarder ce qui s'est passé une fois que les discussions ont eu lieu. On va regarder à la rencontre finale que ça a donné, la conclusion de cette grande rencontre-là qui s'appelait un concile de Jérusalem, on pourrait l'appeler comme ça. Et on va voir les interventions finales qui ont eu lieu. D'abord, il y a eu trois interventions qui se sont suivies. La première est venue de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre s'est levé, verset 6. Ça commence au verset. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva. Alors, Pierre prend la parole. Dans cette conférence, dans ce rassemblement, dans cette grande réunion, l'apôtre Pierre prend la parole. Et il va donner, lui, ses conclusions. Il va affirmer les choses qui se sont passées dans sa propre expérience à lui. Alors, il dit quatre choses, en fait. Je vais les résumer rapidement. Il dit d'abord qu'il, lui, a été choisi, il a été désigné par Dieu comme messager pour annoncer l'Évangile aux non-juifs. Il a été choisi, verset 7, si vous lisez, en milieu du verset 7. « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. » Alors, c'est la première chose qu'il dit. Il a été choisi, désigné par le Seigneur lui-même pour annoncer l'Évangile aux païens. Et on sait, vous connaissez le chapitre 10, Corneille et sa famille ont été sauvés. Des non-juifs ont été sauvés à ce moment-là. Ensuite, il leur dit que Dieu, qui connaît les cœurs, verset 8, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. Alors, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et tous les gens qui étaient réunis dans sa maison lorsqu'ils ont cru, et il n'était pas question de circoncision, il n'a pas été question d'observation de la loi, il était juste question de la foi seule, en Jésus seul, qui sauve. Alors, c'est ça que Pierre veut faire. Il veut faire le point, montrer, regardez, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui ont cru. Il n'y avait pas question d'observation de la loi et de rite. Ensuite, il leur dit qu'il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs. Ça a pris fin au verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Alors, il leur dit ça aussi. Voyez-vous, il n'y a plus la différence qui existait. Cette différence-là prend fin avec la croix entre juifs et non-juifs, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, d'un groupe ou de l'autre. La foi seule, en Jésus seul, suffit pour être sauvé. Et il dit une dernière chose dans son discours, dans son adresse, dans cette réunion-là. Il leur dit que le joug de la loi était impossible à porter. Pourquoi le vouloir le faire porter à d'autres? Hein, verset 10. « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'ont pu porter? » Alors, il leur montre que pourquoi vouloir imposer aux païens la loi, l'observation de la loi que ni nous n'avons pu vraiment observer, garder. En résumé, Pierre y montre que la loi ne pouvait pas purifier le cœur du pécheur. L'observation de la loi de Moïse ne pouvait pas purifier le cœur du pécheur, ne pouvait pas faire descendre le Saint-Esprit sur celui qui croit. L'observation de la loi, la circoncision, ne peut pas produire ça. Ça ne peut pas donner la vie éternelle, l'observation de la loi. Ça ne peut pas transformer un pécheur, transformer sa vie. Mais il dit au verset 11, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus. » C'est par la grâce, on a parlé de la grâce. C'est par la grâce du Seigneur que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Alors, il nous montre quoi? Il arrive à sa conclusion, l'apôtre Pierre, il dit « La grâce du Seigneur, par la foi seule en Jésus, peut produire la purification, peut donner la vie éternelle, peut purifier le cœur du pécheur par la foi seule. » Il n'est pas question de loi, il n'est pas question d'observation de la loi de Moïse. Première intervention vient de passer. La deuxième intervention, on a Barnabas et Paul qui se lèvent dans cette grande réunion-là. Et eux autres aussi vont partager quelque chose au verset 12. Toute l'assemblée garda le silence, comme ce matin, par exemple. Puis quand l'apôtre Pierre parle, tu gardes le silence. Quand des hommes de Dieu se lèvent comme ça, tu restes assis tranquille puis t'écoutes. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Alors, leur intervention de Paul et Barnabas, ils partagent ce qu'ils ont vécu dans leur premier voyage missionnaire, lorsque des multitudes de païens se sont tournés vers le Seigneur Jésus par la foi et ont été sauvés, et Dieu montrait des preuves de l'authenticité de leur évangile, par les miracles, par les prodiges. Alors, il n'était pas question d'observation de la loi. Il n'était pas question de rite, de circoncision. Il n'était pas question de sacrement ou d'observation religieuse. Il était question seulement de foi. en Jésus seul, par la grâce seule. Alors, c'est leur intervention. Regardez les miracles qui se sont produits. C'est la preuve que c'est par la grâce seule, par la foi seule, qu'on est sauvé. Ça, c'est la deuxième intervention. Il y en a une troisième. Et là, c'est l'apôtre Jacques qui se lève. Verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole. Juste une petite parenthèse, de quel Jacques il s'agit? Le frère du Seigneur. Bon, on n'est pas, c'est pas l'apôtre Jacques, il est mort, il a été exécuté par Hérode. Alors, c'est pas un des douze du début, c'est pas le Jacques. Il faut savoir, il faut être capable de distinguer de qui il s'agit. Il y a plusieurs Jacques, comme il y a plusieurs, dans n'importe quel groupe, des fois, il y en a deux, trois qui portent le même prénom, alors lequel? Mais c'est le cas ici. Ici, c'est le frère du Seigneur, celui qui a écrit l'épître de Jacques, celui qui a cru, qui ne croyait pas, mais qui a cru une fois le Seigneur ressuscité et qui est devenu un croyant, il est devenu un leader. Il est devenu un leader important dans l'Église de Jérusalem, ce Jacques-là, le demi-frère du Seigneur. On parle de celui qui est né de Marie et de Joseph, la famille de Jésus. Alors, c'est de lui qu'il s'agit ici. C'est lui qui se lève pour prendre la parole maintenant. Puis, il dit que son intervention, c'est-à-dire que son intervention s'accorde avec celle de Pierre qui vient de parler. Hein. Il dit, « Homme, frère, écoutez-moi, Simon-Pierre, a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. » Alors, Jacques, il montre maintenant qu'être appelé le peuple de Dieu, ce n'est plus une chose exclusive au peuple juif. Ce n'est plus juste eux qui sont maintenant le peuple de Dieu. C'est tous ceux qui croient en Jésus. Juifs, non-juifs, qui vont faire un tout ensemble, et ça va s'appeler l'Église. L'Église. L'Église composée de juifs et de non-juifs. Et l'apôtre Paul va écrire là-dessus plus tard dans Éphésiens, il va expliquer maintenant cette union qui existe, un seul peuple de Dieu, ce n'est plus maintenant exclusif aux Juifs d'être appelé le peuple de Dieu. Et il va ensuite citer la parole de Dieu et il va aller dans les petits prophètes, dans le prophète Amos, et il va citer un extrait du prophète Amos. On a ça au verset 15. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui a fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. » Alors, il cite un passage du prophète Amos, pour faire comprendre aux Juifs que les païens, les Juifs, peuvent maintenant se côtoyer dans l'Église sans que ça change les promesses à venir. Voyez-vous, parce qu'il y avait une crainte chez les Juifs, on peut s'imaginer les Juifs devenus croyants qui espéraient dans les promesses de Dieu pour un règne messianique. Ils s'attendaient un jour que le Messie allait régner à partir d'Israël et ce qu'on appelle souvent le millénium, le règne messianique. Alors, ils s'attendaient à ça. Puis là, ils avaient peur parce qu'ils se sont dit, il y a tellement de païens qui se convertissent maintenant qu'on va devenir en minorité. Puis, est-ce qu'on va perdre toutes les promesses que Dieu nous a faites d'un règne à venir? Alors, il y avait une crainte. Il y avait une crainte, on peut supposer. Alors, Jacques les rassure. Il dit, la conversion des païens qui entrent dans l'Église ne menace pas les promesses à venir, ne met pas en péril ce que Dieu a promis concernant un règne messianique. Et ce que Jacques est en train de faire, c'est qu'il leur montre que, oui, un jour, il y aura la restauration du peuple d'Israël. Israël va revenir dans une relation particulière avec Dieu. Je relèverai la tente, hein, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, c'est une façon de parler. pour dire « je relèverai, je ramènerai Israël dans une relation particulière avec moi, Dieu. J'en réparerai les ruines, je la redresserai. » Alors, Jacques mentionne l'Ancien Testament qui promet cette restauration du peuple d'Israël dans les relations avec Dieu. Et ensuite, il parle que le reste des hommes vont chercher le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Et ensuite, il parle de cette recherche de Dieu de la part des gens d'entre les nations qui, dans le futur, vont se tourner vers Dieu, vont se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Et il ne sera pas question d'observation de la loi pour ces gens-là. Il ne sera pas question de circoncision. Ils vont simplement se tourner par la foi dans le futur aussi. Alors, chacun apporte sa conclusion, montrant que le salut est par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus seul. Voyez-vous, les trois interventions font le même point. Alors, ils vont prendre une décision par la suite de ça. Après ces trois interventions-là, cette grande conférence, ils prennent des décisions. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, ils vont prendre une décision plutôt doctrinale. Et ensuite, ils vont prendre une décision plutôt pratique. Ils vont prendre deux décisions. La première, la décision doctrinale, on peut la résumer comme ça. Juifs et non-juifs sont sauvés d'une seule façon, par la foi seule en Jésus. Le respect de la loi, les rituels ne sont pas nécessaires au salut, ni pour conserver le salut après. Voyez-vous, ça, c'était une tendance à travers l'histoire de mettre des conditions au salut en plus de la foi. J'ai été élevé catholique comme la plupart d'entre vous. On a mis quoi? Un salut sacramentel, un salut par les sacrements, n'est-ce pas? Il fallait être baptisé, il fallait avoir communié. On ajoutait des sacrements au salut. On ajoutait aussi l'observation religieuse au salut. Alors, pour être sauvé, fallait que. Ou pour garder ton salut, fallait que. Voyez-vous, on rajoute à la foi seule par la grâce seule. On le fait à travers l'histoire, à travers les religions. Alors, non, ce n'est pas comme ça. Juifs et non-juifs sont sauvés d'une seule façon, par la foi seule en Jésus. Et il y a, on pourrait dire, un seul et grand besoin, c'est le pardon des péchés. Puis il y a un seul évangile pour répondre à ce besoin, c'est l'évangile de la grâce seule, par Jésus seul, par la foi seule. Et il y avait ça, c'est la décision doctrinale. La décision pratique maintenant, c'est que Jacques suggère l'envoi d'une lettre destinée aux croyants non-juifs pour partager leurs conclusions, oui, que le salut est par la foi seule, par la grâce seule, mais aussi pour leur demander des concessions, Et on le voit dans les versets qui suivent, qu'on écrive, verset 20, qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, il y a des recommandations qui sont faites, des concessions qui sont demandées, des exigences, je devrais dire, qui sont demandées maintenant à tous ces non-juifs qui se sont convertis, qui font partie maintenant de l'Église. D'abord, s'abstenir de l'idolâtrie puis de l'immoralité, ça a toujours été. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était des péchés qui étaient répandus dans le monde païen, comme encore aujourd'hui, avec lesquels aussi les nouveaux croyants qui venaient de se convertir de leur paganisme, qui s'étaient tournés vers le Seigneur Jésus, avaient encore des luttes parce qu'il existait encore des temples d'idoles, il y avait toutes sortes d'immoralités associées à l'idolâtrie. Alors, il pouvait y avoir des, des, des luttes et des difficultés pour ces nouveaux chrétiens-là de s'ajuster dans une vie de sainteté, une vie de marche pour le Seigneur. Alors, il leur répète qu'il faut s'abstenir des souillures des idoles et de la débauche. Ces commandements, ça avait toujours existé, puis si les nouveaux convertis se conduisaient d'une façon relâchée face à ces choses-là, bien, ça faisait éloigner les Juifs de se convertir au Seigneur. Ça les éloignait de l'Évangile. Alors, il ne fallait pas les scandaliser. Parce que pour les Juifs qui craignaient Dieu, le mariage, puis l'attachement au seul vrai Dieu, c'est important. Alors, il les met en garde contre les souillures des idoles et la débauche. Et ensuite, il va, dans la lettre, leur demander aussi des concessions à propos de la nourriture, de leur façon de se nourrir. Alors, il leur demande de s'abstenir des animaux étouffés et du sang. Ça aussi, ça pourrait scandaliser les Juifs, parce que depuis, même avant la loi, la consommation de sang avait été donnée déjà à Noé avant que la loi vienne. Puis ensuite, la loi est venue, puis encore la même restriction est donnée concernant le sang. Le sang devait être extrait entièrement de l'animal avant d'être consommé pour les Juifs. Alors, je passe rapidement, je n'explique pas tout, mais alors, ils ont préparé cette lettre-là. Ils ont trouvé des délégués aussi, deux délégués qu'ils ont envoyés avec Paul et Barnabas, s'appelaient Jude et Barsabas, au verset 22, pour les envoyer à Antioche, apporter la lettre et en même temps donner un témoignage verbal des conclusions de cette conférence-là. Alors, c'est ce qui s'est produit. Alors, on a 22-23, le choix de délégués. Ensuite, on a le contenu de la lettre. Puis finalement, à la fin, versets 30 à 35, on a le soulagement des croyants là-bas, à Antioche, qui devait dire pfff. Parce que là, ils ont été troublés. Hein, si vous regardez au verset 24, les croyants Antioche, là, ils étaient stressés. Qu'est-ce qui se passe? Verset 24, « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. » Alors, quand la lettre est arrivée, puis quand les délégués sont arrivés, quel soulagement, ouf, quel encouragement ça leur donnait, dire notre salut, et par la grâce seule, merci Seigneur. Ils ont dû réagir avec beaucoup de joie, puis de dire enfin, ouf, quel stress qui venait de tomber pour eux, comprenez? Alors, ça m'amène aux leçons du passage. Deux leçons qu'il faudrait bien retenir ce matin. La première, faire une concession n'est jamais la chose à faire si elle compromet une vérité fondamentale de la parole de Dieu. Je répète, faire une concession n'est jamais, jamais la chose à faire si elle compromet une vérité de la parole de Dieu. Il nous faut un discernement, il nous faut un bon jugement comme chrétien. Il faut demeurer ferme sur les vérités essentielles, les vérités fondamentales du christianisme. Il faut demeurer ferme. Il n'y a pas de concession quand ça regarde, quand une doctrine, un sujet touche la parole de Dieu. Il n'y a pas de concession. Imaginez ici si les apôtres avaient dit à ceux qui voulaient imposer la circoncision, « OK, ouais, on va faire un compromis pour vous contenter, pour pas que vous partiez, on va okay, demander la circoncision des nouveaux convertis. » Comprenez, là, ça aurait été une mauvaise. Là, on aurait touché à l'Évangile de Dieu tel que Dieu le veut. Alors, il n'y avait pas de concession à faire. Même si les gens n'étaient pas contents et ils partaient, bien, écoute, ça, on ne touche pas à ça. Comprenez? C'est fondamental. Je vais vous lire un extrait d'un article de William MacDonald. William MacDonald, c'est un homme de Dieu qui était très respecté dans les assemblées. Peut-être vous avez déjà son commentaire biblique du disciple, ça vous dit quelque chose. Peut-être vous l'avez chez vous. Il y avait le livre ABC du disciple qu'on avait regardé ensemble dans le passé, ABC du disciple, où il y avait le vrai disciple aussi qui avait écrit avant. Alors, c'était un homme de Dieu respecté, un enseignant de la parole. Et je vais vous citer des choses qu'il mentionne. Imaginez d'abord, je devrais dire, imaginez que dans votre tête, là, vous avez un classeur. Un classeur qui a trois tiroirs. Okay? Vous allez classer des choses dans votre tête. Qu'est-ce qui va aller dans le premier tiroir? Qu'est-ce qui va aller dans le deuxième tiroir? Puis qu'est-ce que je vais mettre dans le troisième tiroir? OK? Facile, une illustration assez facile à comprendre. Hein? Je vous cite maintenant M. McDonald dans dans un article qu'il a écrit il y a longtemps que je juge super important de mentionner et de rementionner maintenant. C'est important parce qu'on a besoin, entre croyants, d'harmonie, d'unité et il ne faut pas se diviser ou se chicaner sur des affaires de troisième tiroir, de troisième ordre d'importance. Comprenez-vous? C'est important d'être capable, comme chrétien, d'avoir de la maturité puis d'être capable de classer les choses correctement. Alors, je cite M. McDonald dans cet article qu'il avait écrit. Vous pouvez le retrouver à la fin dans les appendices du livre ABC du disciple. Si vous avez le livre ABC du disciple, à la fin, il y a des appendices. Puis un des appendices, à la fin, traite, on a cet article-là de M. McDonald. Et je cite ce qu'il dit. On va voir comment il fait la différence entre d'abord, les questions fondamentales. Questions fondamentales. Certaines doctrines de la foi chrétienne sont absolument fondamentales. Ce sont les plus importantes. Il ne peut exister aucune divergence d'opinion à leur sujet. Les croyants doivent être du même avis par rapport à ces grandes vérités. Ces doctrines ne sont pas négociables. Nous devons les défendre avec ardeur. L'Église, attachée à l'Évangile, les a maintenues à travers les siècles. Les opinions contradictoires ont été qualifiées d'hérésies. Des croyants ont été prêts à mourir pour ces précieuses vérités. Ça, c'est les questions fondamentales. Je donne quelques exemples. Dans quel tiroir on classerait l'inspiration et l'autorité de la Bible? Par exemple. Est-ce qu'on classerait ça dans le premier tiroir? C'est ce premier tiroir, celui du haut. Hein? Merci, Denis. Dans quel tiroir on classerait la Trinité? Il n'y a qu'un seul Dieu existant éternellement en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Premier tiroir. Voyez-vous, on commence à classer nos affaires comme à bonne place. À quelle place, le sujet qui nous intéresse dans Acte 15, à quelle place je classerais le salut par grâce, par la foi seule, sans les œuvres? Premier tiroir. Vous comprenez? On est dans les choses fondamentales, essentielles. Je continue. Maintenant, les questions importantes. Il existe, je cite M. McDonald, il existe une deuxième catégorie de sujets qui, sans être fondamentaux, n'en sont pas moins importants. De nombreux croyants éminents et pieux arrivent à des avis différents sur certains points. Nous devons avoir un esprit d'amour envers ceux qui ne sont pas d'accord avec nous en ce qui concerne ces doctrines importantes. Alors, il y a une certaine catégorie de doctrines aussi ou des hommes de Dieu compétents qui aiment le Seigneur arrivent à des conclusions différentes sur certains points. Je vais juste en mentionner un. Par exemple, la prophétie biblique. Tous les croyants attendent le retour du Seigneur. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas l'attente du retour du Seigneur, mais peut-être les questions concernant Israël. Concernant l'enlèvement ou concernant différentes choses. Moi, je suis attaché, mes convictions sont faites depuis longtemps, c'est précieux pour moi, mais je vais respecter quelqu'un qui n'arrive pas tout à fait à la même conclusion que moi dans ce domaine-là, par contre. Je vais être respectueux parce qu'il y a des hommes de Dieu très, très capables qui arrivent à des conclusions différentes par rapport à l'ordre des événements ou la façon dont ça va se dérouler. Tout le monde n'attendra pas le retour du Seigneur, mais l'ordre des choses puis la façon dont ça va se passer, bien là, il y a des avis différents. Alors, je pense que moi, je mettrais ça dans le deuxième tiroir. Voyez-vous, j'ai ma conviction, j'ai ce que j'aime vraiment, ce que je comprends, mais malgré cela, bien, je vais classer ça dans le deuxième tiroir. Parce que il y a beaucoup, beaucoup d'hommes de Dieu qui n'arrivent pas à la même conclusion. Ça va? Je m'embarque pas à d'autres sujets parce que là on va avoir des débats, puis on va avoir des discussions, puis là, non. Mais c'est juste un exemple que je vous donne, OK? Le troisième sujet, les sujets non essentiels. Les sujets non essentiels. Ils sont importants pour moi, peut-être. Et des convictions sont importantes pour moi, mais sont non essentielles si je regarde l'ensemble de la parole de Dieu. Et là, je recite M. McDonald à nouveau. Outre les sujets susmentionnés, il en existe certains que l'on peut clairement qualifier de non essentiels. Lorsqu'il s'agit de ces sujets, il devrait toujours être possible de ne pas être du même avis sans provoquer de conflits ou de divisions. C'est le respect. Il doit régner le respect pour des opinions qu'on va se former nous-mêmes, mais qu'on va respecter l'autre qui n'arrive pas à la même conclusion que moi. Je vais donner rien qu'un exemple. Tout le monde attend l'exemple. Par exemple, souligner la fête de Noël. Vous savez peut-être que certains chrétiens ne fêtent pas Noël. Pourquoi? Bon, ils vont avoir leurs arguments, ils vont dire, bon, ça dérive d'une fête païenne, entre autres. Puis, ils vont dire, bon, on ne le voit pas dans le Nouveau Testament, on ne voit pas que les croyants dans les Actes des Apôtres célèbrent Noël. Ils vont donner plein d'arguments comme ça. Tandis que pour d'autres chrétiens, c'est important de souligner Noël, c'est la venue du Seigneur Jésus dans notre monde qui s'est fait homme. Alors, voyez-vous, deux points de vue différents. Est-ce que je vais me diviser avec quelqu'un qui ne pense pas comme moi? Est-ce que je vais créer la bisbille à cause de ça? Non, je pense que j'irai mettre ça dans le troisième tiroir. Je serai respectueux avec quelqu'un qui n'a pas la même opinion que moi. Voyez-vous? C'est un exemple. Alors, quelle que soit votre opinion sur Noël, je la respecte. Et on est libre dans ce domaine-là de partager notre conviction, de vivre, c'est-à-dire notre conviction, mais sans créer de conflit, sans créer la bisbille ou la division. Comprenez-vous? Alors, ça, c'est la première chose que j'aimerais mentionner ce matin. L'importance d'avoir de la maturité, d'être capable de classer les choses. Rappelez-vous de ce classeur à trois tiroirs. Ça peut vous aider à dire aussi que ça va, ça. Ça va-tu dans le deuxième, dans le troisième ou dans le premier? Comprenez, je veux dire, c'est une façon de dire qu'il faut avoir de la maturité quand on regarde les vérités de la parole de Dieu puis quand on regarde nos propres convictions personnelles. Alors ça, c'est la première leçon. La deuxième, faire une concession pour l'amour est la bonne chose à faire afin de ne pas blesser ou offenser les autres. Je répète, faire une concession pour l'amour, quand ça ne touche pas les vérités fondamentales, bien sûr, c'est la bonne chose à faire, afin de ne pas blesser les autres. On voit dans notre passage des concessions qui se sont faites. Les croyants qui étaient encore attachés à la loi de Moïse, c'est comprenable, les Juifs qui se sont convertis au Seigneur avaient depuis des siècles observé la loi de Moïse. Depuis des siècles, ils attachaient une grande importance à la circoncision. pour eux, ils ont dû renoncer, ils ont dû faire une concession, ils ont dû renoncer à exiger la circoncision des païens pour le salut. Ils ont dû faire une concession. Puis les païens, qui s'étaient convertis au Seigneur, ont accepté de modifier leur habitude alimentaire par respect pour les Juifs. Il y a eu une concession mutuelle qui s'est faite et qui ne touchait pas l'Évangile, qui ne touchait pas les doctrines fondamentales. Alors, c'était un compromis rempli de considération pour l'autre qui n'affectait pas les vérités de la parole de Dieu. Et puis, c'est comme ça dans la vie de couple. C'est comme ça dans la vie en société aussi. C'est une considération réciproque, mutuelle, qu'il nous faut pour avoir l'unité, l'harmonie. Une considération mutuelle au nom de l'amour. Et chaque groupe a dû faire une concession pour garder l'unité. Et l'unité a été maintenue. Si les croyants non-juifs avaient abusé de leur liberté, c'est du argument fou, moi, les Juifs convertis, moi, je tiens pas compte de leur tradition, de leur culture, je fais bon comme bon, me semble, je les aurais blessés. J'aurais peut-être éloigné du salut des Juifs qui étaient intéressés par l'Évangile, ou j'aurais peut-être blessé des Juifs convertis en me comportant en indifférent face aux choses qui ont été demandées ici dans notre passage, puis dans bien d'autres domaines, la considération mutuelle pour l'autre est importante. Alors, en conclusion, nous devons être capables de définir les priorités pour savoir quand ne pas faire de concessions pour ce qui est fondamental et quand il faut faire des concessions par amour pour garder l'unité et un bon témoignage face au monde. Parce qu'il n'y a rien de pire que des croyants divisés en chicanes. Quelle sorte de témoignage on donne au monde? Alors, comme chrétiens, nous devons apprendre l'art du compromis par amour. Et ça, c'est quelque chose qui est important à développer. Alors, je m'arrête là-dessus. J'espère que j'ai été clair. Il faut grandir en maturité. Il faut grandir en maturité, puis en étant capable de faire des différences entre des choses. Mon opinion est très précieuse, très importante pour moi, mais elle n'est pas aussi importante que les fondements de la parole de Dieu, les grandes vérités. Alors, il y a une grosse nuance qui doit être faite. On va prier, on va s'arrêter là. Seigneur, merci pour ce qu'on trouve comme leçon pratique pour nos vies dans ta parole. Seigneur, oui, il n'y a pas de concession à faire sur les vérités fondamentales. On veut les chérir, on veut les garder et on veut penser aux croyants qui nous ont précédés autrefois dans l'histoire, qui sont même morts pour ces vérités. Seigneur, on veut s'attacher à ta parole. Mais en même temps, Seigneur, on veut être capable aussi de faire des différences avec nos opinions, avec nos convictions. On veut, Seigneur, avoir le jugement, un bon jugement, Seigneur, pour placer les choses aux bonnes places dans nos esprits et garder l'unité, garder l'harmonie, garder la paix entre les frères et les sœurs. Aide-nous, Seigneur. On a beaucoup de chemin à faire. On a beaucoup de croûte, Seigneur, à manger pour grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus. En son nom, on veut se remettre entre tes mains maintenant pour la suite de cette journée, pour cette semaine qui vient de commencer. Accompagne-nous, Seigneur. Fortifie-nous. Protège-nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors voilà, je vous souhaite un bon retour, puis un bon dîner, et puis bientôt. Image du classeur, vous allez garder l'image.
Thank you.